Je vais demander à Marc Lacoste de se rapprocher de du pupitre. Donc, pour conclure donc, la session, enfin conclure, aborder un sujet sur la partie véhicules autonomes et donc les techniques de virtualisation dans cet environnement-là. Donc ça finira la session sur les systèmes numériques.
Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis très heureux d'être ici, à Rennes, à César avec vous. Aujourd'hui, donc, je voudrais partager avec vous les conclusions d'une étude qui a été menée au sein de la communauté d'experts sécurité d'Orange sur l'approche Software-Defined Vehicular Networking. Donc, en fait, tout à l'heure, on a eu une présentation sur l'approche, on va dire, software-defined, des infrastructures qui sont software-defined. Et là, aujourd'hui, on va s'intéresser au cas d'application véhiculaire de la voiture connectée. Qu'est-ce que ça veut dire pour la sécurité de ce type d'approche? Donc, comme vous le savez, la voiture connectée et autonome, c'est un sujet qui prend beaucoup d'importance, dont on parle beaucoup, et ça pose de nombreux défis sécurité. Pourquoi ça? On a deux ruptures essentiellement. D'une part, une connectivité croissante, c'est ce qu'on appelle le V2X, Vehicle to Everything. Les voitures sont connectées à de nombreuses choses, d'autres voitures, d'autres infrastructures, des piétons, des vélos, et un degré d'autonomie croissante également. Les voitures sont partiellement automatisées, mais elles le sont de plus en plus jusqu'aux véhicules qui sont complètement autonomes. Et ça pose des problèmes de sécurité avec de nombreuses attaques, l'attaque de la Jeep emblématique, qui montre notamment que avec des pannes également, que les problématiques de sûreté et de sécurité doivent être traitées de manière unifiée. On a des vies humaines qui sont en jeu et on a des problèmes également de responsabilité. Quand on regarde... Les voitures ne sont pas uniques, elles sont en réseau. Quand on regarde l'aspect réseau et la partie 5G, les défis sont encore plus majeurs. Donc c'est un écosystème, la voiture connectée autonome. C'est un écosystème en trois tiers. Donc on a la partie device, la partie véhicule. Les voitures sont organisées en réseau ad hoc, ce qu'on appelle des vanettes, des vehicular ad hoc network. On a la partie du milieu, la partie bordure, edge. Et enfin, on a un certain nombre de nuages, la partie cloud. Et avec deux grands types de connectivité, cellulaire et des connectivités à faible latence. Et la problématique qui va se poser du point de vue sécurité, c'est un problème à six cases, à la fois sur chacun de ces trois tiers, et aussi où va-t-on déployer les mécanismes de sécurité au niveau matériel ou au niveau logiciel. Donc il faut vraiment adopter une approche globale de la sécurité, à la fois matériel et logiciel, sur chacun de ces trois tiers, et aussi couvrant l'ensemble du cycle de vie des données. La voiture connectée, c'est aussi de nombreux cas d'usage, comme par exemple ceux issus du projet européen 5G Car, comme par exemple ici de la fusion de trajectoires, où on va devoir garantir l'authenticité et l'intégrité des données de position pour éviter un accident, mais en même temps, les données qui sont correspondantes, ça peut être des données personnelles, et donc les données ne doivent pas être stockées, donc on doit assurer la privacy. Un use case de see-through, où on étend la vision d'un véhicule par le véhicule qui le précède. Donc là aussi, on a besoin de garantir l'intégrité. Des cas d'usage de perception coopérative pour améliorer l'expérience de conduite globale, mais avec des cartes, mais on va aussi, là, pour avoir cette vision coopérative, collecter de nombreux types de données, et donc on va devoir garantir la privacy. Donc en résumé, on va avoir des besoins de sécurité, essentiellement un compromis entre intégrité d'une part et authentification pour garantir la sûreté, et de l'autre côté, de la confidentialité et de la privacy. Et en plus, on va avoir des besoins de robustesse, de mise à jour sécurisée, donc de nombreux besoins de sécurité. Donc quand on rassemble un petit peu tout ça, on a un écosystème qui est complexe, on a des cas d'usage multiples, on a des besoins de sécurité divers, et donc on a un besoin pour cette voiture connectée et autonome d'une approche très flexible, très souple de gestion de la sécurité. Et c'est ce que propose le SDVN, donc le Software Defined Vehicular Networking Security, qui utilise les bénéfices de l'approche bien connue SDN pour gérer cette sécurité. Mais en même temps, ça introduit des risques et ça introduit aussi des opportunités de services de cybersécurité. Donc, c'est ce qu'on va voir un petit peu dans la suite de cette présentation, en regardant un petit peu quelles sont les architectures, les principes et les architectures du SDVN, quel est l'impact sécurité et quelques opportunités. Donc, le SDVN, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Le déploiement des réseaux véhiculaires a posé de nombreux challenges pour qu'ils soient pratiques. On a des problèmes de scalabilité, on a des problèmes de performance, on a des problèmes d'interopérabilité. Et de l'autre côté, on a le SDN qui offre des bénéfices bien connus en termes de programmabilité. Et quand on met les deux ensemble, on a de la flexibilité et de la programmabilité en termes de promesses sur un substrat distribué, véhiculaire, avec de la connectivité sans fil. Et l'idée derrière le SDVN, c'est de représenter les véhicules par des switches. Alors globalement, qu'est-ce que ça donne en termes d'architecture ? Ça donne ça. Donc vous allez retrouver une architecture SDN classique en trois tiers, avec un plan data, un plan de contrôle et un plan applicatif. Sauf que la différence par rapport à une architecture SDN, c'est que le plan data est coupé en deux. Vous avez un plan data mobile, les véhicules, et un plan data fixe, qui est l'infrastructure de bord de route ou les stations de base. Et ensuite, vous avez l'ensemble de ce réseau véhiculaire qui est supervisé par un contrôleur SDN, avec différentes fonctions pour superviser la topologie du réseau, prédire la trajectoire des véhicules. Et enfin, dans le plan applicatif, vous avez des fonctions de routage, de sécurité, de QoS, etc., comme pour le SDN classique. Donc, cette approche offre un certain nombre de bénéfices. Typiquement, pour des services de sécurité, ça permet de segmenter, par exemple, pour des services d'urgence, le routage pour une file de véhicules par rapport à une autre file de véhicules, typiquement pour permettre au trafic d'urgence d'aller plus vite que pour le trafic de véhicules normal. Ça permet d'optimiser le routage, de faire du slicing. Mais on a encore de nombreux défis liés à la mobilité, notamment, et en particulier également à la sûreté et à la sécurité. Alors, ça, c'était pour les vanettes. Arrive là, en plus, le contexte 5G. Donc ces défis vont être magnifiés dans le contexte 5G par des problématiques de faible latence, d'hétérogénéité réseau, c'est ce qu'on appelle les headnets, de mobilité, de topologie dynamique. Et donc les bénéfices du SDVN dans le contexte 5G vont être de plus en plus particulièrement pertinents. Et donc on va avoir des compromis à trouver entre la performance que va pouvoir apporter le SDVN, la densité des véhicules, la couverture radio, pour trouver le bon compromis entre ces différentes propriétés. Donc, on va, typiquement, là, vous avez une architecture, on va pouvoir faire du clustering adaptatif de véhicules, de la prédiction de localisation, de la communication coopérative. Donc, voilà un exemple d'architecture SDVN dans le contexte 5G. Donc, c'est plus compliqué qu'une architecture SDVN simple. Vous allez retrouver l'architecture SDVN classique, hiérarchique, mais sauf que vous allez avoir plusieurs niveaux de contrôleur SDN, un niveau de contrôleur SDN global et différents contrôleurs plus inférieurs pour gérer par exemple des groupes de véhicules et faciliter la gestion du handover avec des cellules, ce qu'on appelle des fog cells, pour faciliter la gestion du handover de véhicules de manière plus fine et plus souple. Le SDVN a aussi, et je crois que ça a été souligné précédemment, de nombreuses interactions avec les technologies Edge, parce qu'on a le même type de propriétés, donc des propriétés de faible latence, de context awareness, de passage à l'échelle, qu'on retrouve dans d'autres verticaux, qui sont les smart cities, la santé, et donc avec le même type de bénéfices. Mais on a aussi des défis, qui restent non résolus, qui sont les pannes en cascade, comment on va faire interopérer différents serveurs Edge, et aussi des menaces sur les centres de décision. Alors, quel est l'impact sécurité du SDVN ? Alors, comme pour le SDN, il y a quelques points de vigilance clés à regarder dans une architecture SDVN. Tout d'abord, le contrôleur SDN. Alors, je sais pas. Le contrôleur SDN, là, qui est au milieu, c'est un point de contrôle centralisé. Et en tant que tel, donc, c'est un endroit pour les menaces particulièrement critiques, notamment pour des attaques de déni de service. Donc c'est quelque chose vraiment à surveiller du point de vue sécurité. Ensuite, on a une architecture en trois couches, entre le plan data, le plan de contrôle et le plan applicatif. Et ces couches sont étroitement imbriquées avec des API non standardisées pour l'API sud et pour l'API nord. Donc là, on va avoir des points de vulnérabilité sur des attaques de type man-in-the-middle. Et enfin, par rapport à des architectures SDN, le plan data mobile dû aux véhicules et à leur mobilité est beaucoup plus ouvert. Donc on va avoir on a des réseaux multiples qui vont devoir interopérer. Et donc on a des contrôleurs SDN qui vont devoir coopérer et on va avoir des problématiques de conflit de configuration. Donc on a des problématiques de sécurité aussi à ce niveau-là. Donc, pour traiter ces problématiques de sécurité, ce qui est recommandé, c'est d'adopter une approche de défense en profondeur, de limiter la propagation des menaces avec des API renforcées et standardisées entre les différentes couches, et de sécuriser le plan data mobile en particulier. Donc, dans le papier, vous avez une description des menaces plus précise pour chacun de ces différents points. En termes de bénéfices, donc les bénéfices du SDN sont bien connus et ont été détaillés précédemment, que ce soit pour la vue globale de la sécurité, que ce soit pour la résilience, que ce soit pour le contrôle. Et quand on l'applique au contexte véhiculaire, ça ouvre la voie à un certain nombre de services de sécurité, que ce soit de la détection d'intrusion intravéhiculaire, que ce soit du firewalling, du device management, pour améliorer les capacités du véhicule, que ce soit pour la connectivité également, du slicing, de la détection d'anomalies, ou également pour la protection des données ou pour la sûreté. Un exemple, à l'intérieur du véhicule, en général, l'architecture est matérielle, fixe, et changer un feature va coûter très cher. Il faut changer le matériel. On a ce qu'on appelle le SDIVN, c'est-à-dire l'application du SDVN au réseau intravéhiculaire, en fait, où si on a des pannes à l'intérieur du véhicule, un contrôleur typiquement de direction ou qui peut provoquer un crash du véhicule, à ce moment-là, on va reconfigurer l'intérieur du réseau véhiculaire de manière logicielle, très rapidement, et donc là, on gagne à la fois en sûreté, on gagne en coût, par rapport à si on devait changer l'architecture du bus logiciel, ce qui coûterait très cher et ce qui prendrait beaucoup de temps. Donc, ça ouvre, le SDVN, c'est quelque chose qui prend de l'importance, notamment dans l'écosystème. L'écosystème de véhiculaire, c'est un écosystème très riche avec de nombreux acteurs, également pour de nombreuses fonctions de sécurité. Orange est très présent dans cet écosystème à travers des projets collaboratifs et aussi à travers des testbeds, par exemple le projet 5G Car dont j'ai déjà parlé, le projet 5G Croco où on regarde notamment l'aspect multidomaine entre pays pour la partie sécurité, ou un testbed qu'on a à l'INAS Montlhéry avec un certain nombre de nos partenaires où on regarde l'apport du Mobile Edge Computing pour la sécurité et la privacy notamment. Et le SDVN, en fait, c'est un premier pas vers quelque chose de beaucoup plus large, qui est le machine learning pour la sécurité, ce que de plus en plus on va vers le software defined car. Donc, c'est adapter les fonctionnalités du véhicule à un contexte, à des besoins de sécurité de différents acteurs, que ce soit les besoins du conducteur, que ce soit les besoins du fabricant automobile, des acteurs réseau. Et donc ça ouvre, grâce à cette approche, un certain nombre de services de sécurité. Donc en voilà quelques-uns. Ça peut être de la détection d'anomalies à l'intérieur du véhicule, système par exemple, pour lutter contre des malwares. Ça peut s'étendre aussi sur la partie réseau pour sécuriser la partie connectivité et jusque sur la partie cloud. Ça peut être aussi pour assurer l'isolation entre les différents contrôleurs ECU et aussi pour les groupes de véhicules pour détecter des comportements malveillants ou déviants des différents conducteurs, par exemple pour de l'éco-conduite. Il y a également d'autres cas d'application pour assurer la protection des données, pour authentifier les sources d'informations ou pour le slicing. Donc, en conclusion, pour garder la présentation courte et permettre des questions, le SDVN permet de répondre à un certain nombre de challenges de sécurité et de sûreté des réseaux véhiculaires aujourd'hui. C'est assez séduisant par son approche simple et flexible de la gestion de la sécurité véhiculaire. Bien sûr, ça ne répond pas à tout, mais ça permet quand même de répondre à un certain nombre de challenges des différents VANETs en termes de passage à l'échelle, de mobilité, d'hétérogénéité. Mais ça pose des problèmes de sécurité quand même qu'on retrouve déjà dans le SDN. Mais ça améliore quand même la sûreté et la sécurité. Donc ça ouvre des opportunités de service, typiquement d'audit, de détection d'attaques, de mise à jour ou de résilience. Donc il y a un certain nombre de points très intéressants pour les études futures. Donc on peut en citer trois. D'une part, il y a le fait que les voitures autonomes, à la base, c'est une grande boucle autonomique qui va gérer la sécurité de manière autonome, mais il y a aussi la partie sûreté. Donc ça peut être à l'intérieur de la voiture, mais ça peut être aussi au niveau d'un réseau de véhicules. Et donc on va devoir traiter de manière unifiée la partie sûreté et la partie sécurité pour la partie cyber-résilience, donc à l'intérieur du véhicule, pour le réseau et de bout en bout. Donc cette partie-là, on ne fait que commencer à l'explorer et le SDVN apporte certains éléments de réponse, mais il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là. D'autre part, le SDVN, c'est un premier pas vers le potentiel du machine learning. Donc il y a des études, par exemple, au MIT qui essayent de matcher quels sont les besoins de sécurité véhiculaire et quelles sont les réponses que peut apporter le machine learning et de regarder quelles sont les meilleures approches parmi tout l'arsenal du machine learning, de quelle approche peut matcher quels besoins de tel réseau véhiculaire. Et donc là, on en est vraiment au tout début. Il y a beaucoup de travaux qui commencent à émerger sur ce domaine. Et là, on en est qu'au tout début de l'histoire. Et enfin, sur la partie vraiment d'automatisation de la sécurité, ce qu'on voit aussi, c'est que le SDVN a pris beaucoup d'importance depuis, on va dire, 2 ans. Et on voit ce type d'approche s'étendre à d'autres verticaux, notamment par exemple aux drones, et parce qu'il y a un certain nombre de verrous communs aux deux approches. Et ces différents verticaux sont à la fois des systèmes de systèmes complexes, donc ça pose plus largement la question de savoir si pour sécuriser ces systèmes, est-ce qu'il faut adopter une approche en silo, par verticale, ou est-ce qu'il faut adopter une approche transverse, cross-verticale, horizontale, et après qui se décline en silo. Et pour l'instant, il y a un petit peu 2 écoles qui s'opposent et le débat n'est pas encore tranché. Donc je vous remercie et je suis prêt à vous répondre à vos questions. Merci beaucoup.
Merci Marc. Cette intéressante présentation. Donc des questions dans la salle ou la parole est à la salle?
Oui, bonjour. Donc on voit bien que le SDVN il va apporter un maillage considérable dans l'utilisation des véhicules autonomes. Quelle est votre approche pour le respect de la vie privée lorsque nous allons utiliser ou les générations futures vont utiliser ce type de véhicule ?
Alors effectivement, le respect de la vie privée, c'est une problématique fondamentale pour les véhicules autonomes et pour les réseaux de véhicules autonomes, pour savoir qu'est-ce qui doit sortir de la voiture et qu'est-ce qui doit y rester. On va avoir là aussi, on va retrouver ce trade-off entre qu'est-ce qui doit rester dans la voiture pour garantir la protection des données personnelles de l'utilisateur, de ses devices, mais aussi des données du véhicule qui peuvent devenir personnelles. Et en même temps, il faut qu'il y ait un certain nombre de choses qui sortent du véhicule pour garantir l'intégrité, pour garantir l'authenticité des sources d'information, pour garantir la sûreté du système. Donc il y a un trade-off délicat à trouver. Et en même temps, troisième aspect, en cas d'accident, il faut pouvoir établir les responsabilités. Donc il faut que des éléments d'information puissent sortir du véhicule pour être authentifiés de manière non répudiable, éventuellement pour lever l'anonymat par certaines autorités, alors que ce soit des compagnies d'assurance, que ce soit des autorités de police, de judiciaire, pour établir les responsabilités et pouvoir les établir, avec des problématiques d'intégrité notamment. On manque pour l'instant de modèles de ce type de responsabilité. Donc la question de la vie privée est une question importante. Alors est-ce que le SDVN va pouvoir y répondre ? Pourquoi pas ? Disons que le SDVN, c'est une manière de mettre des fonctions de sécurité dans l'edge, en bordure de réseau. Après, quelle va être cette fonction de sécurité ? Qu'est-ce qu'on va mettre dans le contrôleur de sécurité ? Qu'est-ce qu'on va mettre comme service de sécurité ? Alors soit dans le contrôleur de sécurité, dans le contrôleur SDN, soit au-dessus, ça reste ouvert. On peut très bien y mettre un service de gestion de la privacité. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Une autre question ? En bas à droite pour nous.
J'ai juste une question, une précision sur le SDIVN, le in-vehicle,
oui.
Qui peut se reconfigurer en temps réel, tout ça.
Oui.
Pour moi, un réseau interne au véhicule aujourd'hui, c'est un bus CAN où tout est en broadcast. Donc, peut-être qu'on ne parle pas du même réseau, mais du coup, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on peut reconfigurer ça.
Alors, justement, donc le SDIVN, oui, l'acronyme est un peu compliqué, c'est quelque chose qui vient du NIST. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la topologie intravéhiculaire connaît de très très fortes transformations. Donc effectivement, le bus CAN, c'est le modèle de référence, hein, automobile. Mais il y a de nombreux autres modèles hardware. Et les ECU, on va avoir des modèles où on va avoir des gateways. On va avoir plusieurs gateways, des modèles hiérarchiques. Et puis petit à petit, on va avoir de la virtualisation aussi qui va s'introduire à l'intérieur pour virtualiser les ECU. Ça, c'est dans les roadmaps d'évolution de la voiture autonome. Donc on n'y est pas encore, mais petit à petit, dans la vision de la voiture, on n'est plus encore où on va avoir des contraintes de coût, mais petit à petit, on a des groupes d'ECU qui vont être managés par un certain nombre de contrôleurs de domaine pour des grandes fonctions de l'automobile, typiquement pour la gestion de l'entertainment, pour la gestion de... Et l'étape d'après, ça va être d'avoir un contrôleur unique, peut-être avec beaucoup de puissance de calcul, un GPU, qui va contrôler l'ensemble de la voiture. Et avec de l'introduction de la virtualisation, des hyperviseurs peut-être dans la voiture, de la gestion de conteneurs, peut-être de l'orchestration. Il y a un certain nombre de choses d'edge où on fait de l'orchestration, on fait du Kubernetes, on fait du Swarm à l'intérieur de la voiture elle-même. Donc on voit que la topologie et le modèle, l'architecture intravéhiculaire, elle est en train de vraiment de se transformer. Donc ça paraît pas... sur le bus CAN, qui est quand même un bus qui commence à... qui est le bus de référence, effectivement, ça va être très compliqué de le reconfigurer. Mais maintenant, on va quand même vers une architecture où on a de plus en plus de cloud, c'est le data center on wheels, on a de plus en plus de cloud dans la voiture, de plus en plus de puissance de calcul, et donc, quelque part, on rejoint la première présentation de VMware, où on va avoir un cloud dans la voiture, et on va avoir une approche software-defined dans la voiture, avec de plus en plus de virtualisation. Mais c'est sur une roadmap, c'est sur une évolution longue.
Une autre question. Alors, on va prendre en haut à droite, Nora. Après, on prendra à gauche.
Merci, Marc, pour la présentation. On a vu que l'architecture SDN est assez complexe. Avec les vanettes, ça devient un peu plus complexe. plaquer là-dessus une architecture de sécurité. C'est encore un peu plus complexe. Et ma question, c'est sur les certains mots qui passaient là, qui étaient intéressants pour nous, qui sont la résilience. Et ma question, c'est comment tu vois les choses par rapport à la résilience, au lieu de plaquer une architecture de sécurité là-dessus. Pardon pour la question.
Non, ça va être un gros challenge, effectivement, la résilience. Ce qui va être le challenge, ça va être vraiment de sécuriser la boucle autonomique, de sécuriser la boucle autonomique intravéhiculaire, déjà, la partie décision, détection, décision, réaction. Donc, est-ce que le contrôleur SDN, est-ce que ça va y suffire? On a des modèles SDN qui assurent la sécurité, on a des modèles SDN qui assurent la résilience. Est-ce qu'on est capable de coupler les deux? Ça reste à construire. Et après, il y a la problématique de faire la même chose au niveau du réseau de véhicules. Avoir un contrôleur SDN pour gérer le réseau de véhicules pour la sécurité, pour la sûreté et pour les deux. Donc vraiment, il faut une approche unifiée sûreté-sécurité. On le voit, pour le moment, cette approche, elle n'est pas là. Sur le bus matériel, on a des pannes et des attaques qui circulent librement. Au niveau de la standardisation, on a d'un côté des normes sécurité, de l'autre côté des normes sûreté. Donc la cyber-résilience, elle n'est pas encore là. Ça reste à construire et ça reste à construire aussi au niveau du contrôleur SDN, à la fois à l'intérieur du véhicule et au niveau du réseau de véhicules, et coupler les deux. Donc je pense qu'on n'y est pas encore.
Oui, donc on va prendre en haut sur la gauche pour nous.
Oui, alors là on voit qu'il y a plusieurs stacks qui vont se superposer. Donc il y a l'étape d'après, ce sera la virtualisation. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des réflexions sur... Okay. Comment est-ce qu'on va maintenir en conditions de sécurité toutes ces piles et quelle est l'adhérence, la dépendance des propriétaires de voitures vis-à-vis des constructeurs, vis-à-vis du fournisseur des services à bord? Ça va se passer comment tout ça? Désolé pour la question pour le coup.
Non, mais là c'est une très bonne question et c'est une question clé parce qu'il y a la question derrière de l'homologation. Parce que ces véhicules connectés autonomes, s'ils ne passent pas un certain nombre de tests d'homologation, ils ne circuleront pas. Donc il faut quand même s'assurer, ne serait-ce que pour déjà la partie sûreté, ça c'est quelque chose qui est regardé de très près, il faut s'assurer qu'ils passent un certain nombre de tests de sûreté, comme pour les tests Euro NCAP, des voitures non connectées et non autonomes, les voitures normales, s'assurer qu'elles passent ce type de tests de sûreté. Donc il y a un certain nombre d'initiatives qui vont dans ce sens-là, et il faut s'assurer qu'on ait également la même chose au niveau sécurité. Donc oui, c'est une question importante, et la question de tests, d'audit, c'est une question qui est en cours d'exploration, mais qui est non résolue. Mais c'est une question clé, oui.
A-t-on une question encore dans la salle? On a le temps d'en prendre une. Ah. On remonte à droite.
Oui, une question en termes de coûts, notamment en termes de cyber-résilience. Aujourd'hui, comment les constructeurs voient cet aspect surcoût que va représenter la nécessité de rendre la voiture cyber-résiliente, résistante aux cyberattaques?
Alors, je vais parler avec beaucoup de précaution.
Pardon pour la question.
Pardon pour la réponse. Alors, je vais parler avec beaucoup de précaution parce que moi, je ne suis pas du monde de l'automobile, je suis plutôt du monde des télécoms. Mais ce que j'ai l'impression, c'est que pour l'instant, sur la partie sûreté et sécurité, le monde de l'automobile est beaucoup plus est très sensibilisé aux aspects sûreté, sur le fait que la voiture, la conduite soit sûre et qu'on ait le même, que les voitures autonomes atteignent le même niveau de sûreté que les voitures normales, qu'on ait zéro mort sur les routes quelque part avec ces véhicules autonomes, et que la sensibilisation à la partie sécurité,
Elle est là, mais on a encore beaucoup de chemin à faire pour faire prendre conscience à l'écosystème automobile que oui, ces véhicules sont complexes, ils sont vulnérables, et qu'il n'y a pas que la sûreté, il n'y a pas que des problématiques de certification pour la sûreté, mais qu'il y a aussi des problématiques de sécurité. Donc, il faut aussi traiter la partie sécurité. Donc, investir sur la partie sûreté en termes de coûts, je pense que c'est une nécessité quelque part pour passer les tests d'homologation déjà. Même si on va avoir, tout à l'heure on posait la question du Buscan, la question de tous ces mécanismes, ça va être quand même une question de coût, de savoir quels sont tous ces mécanismes de sécurité, qu'est-ce que ça va coûter de les introduire dans l'architecture de la voiture. Là, c'était une vision plutôt cloud hein, qui a été présentée, mais quand on va les introduire vraiment à l'intérieur du véhicule, la question du coût va être critique. On est quand même aujourd'hui dans une vision encore très CAN, même si ça a tendance à évoluer.
Très bien, ben, merci Marc.
Ben, merci beaucoup.
Je ne vous ai pas coupé. Voilà. Donc ceci conclut la session sur les systèmes numériques et les problèmes de l'aspect virtualisation sur ces systèmes-là. Donc là, ça va être l'heure de la pause et on va reprendre après avec la fameuse session sur laquelle j'ai buté ce matin, l'introspection des bacs à sable. Voilà, à tout à l'heure.